Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kemaïs, tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent. D'ailleurs, bienvenue dans le chat. Posez vos questions. On est là, on vous écoute, on vous lit, on répondra en direct. Tu veux bien te représenter, Kemaïs?
Oui, je me représente. Alors, Kemaïs Benlagdar, et j'écris une thèse en ce moment sur l'orientalisme dans la mode à la fin du 19e, début 20e siècle à Paris, dans la haute couture. Et du coup, je m'intéresse beaucoup aux questions liées à l'orientalisme, à l'empire colonial, aux cultures aussi vestimentaires orientales, etc. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'appropriation culturelle, forcément, parce que c'est des questions qui sont inévitables lorsqu'on traite de ces sujets. Et je donne des cours aussi pas mal, un petit peu partout, d'histoire de la mode à l'IFM, de liens entre les études post-coloniales et décoloniale et les fashion studies, comme on appelle ça. C'est un courant en fait de anglo-saxon qui entend étudier la mode de façon académique, universitaire. Donc ça arrive tardivement en France, mais ça arrive de plus en plus. Et j'essaye de voir en fait comment on fait pour essayer comment est-ce que ces deux champs académiques s'articulent entre eux. Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu as toujours voulu faire de la recherche en mode? Est-ce que tu savais que ça existait avant de te lancer?
Mais non. Mais non. Au début, moi, je voulais être styliste. Alors, je vais commencer. C'est le moment où je raconte ma life.
Voilà, c'est le moment podcast. Accrochez-vous, prenez un thé.
Juste après le lycée. En fait, moi, je voulais travailler dans la mode. Je voulais être styliste de base, créateur de mode éventuellement. Le problème, c'est que lorsqu'on vient d'une famille modeste et qu'on n'a pas 20 000 balles par an à foutre dans une école de mode, faut trouver aussi une alternative. Donc du coup, en fait, j'ai pas pu faire d'école de mode, c'était pas possible, Donc du coup, fac en histoire de l'art. Et je me suis dit, à un moment, je vais forcément rebiquer avec la mode, c'est absolument sûr. Et donc, du coup, j'ai eu ma licence d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et dès le Master 1, je me suis intéressé à la recherche en mode, en gros. Et Master 1, Master 2, j'ai écrit deux mémoires sur Yves Saint Laurent et sur des aspects de sa création. Pour le Master 1, j'avais parlé de la plumasserie, en gros l'art de la plume, parce que je faisais un stage aussi chez Le Marié, qui est le plumassier de la maison Chanel, en gros. Voilà.
Et les métiers d'art, on adore.
Les métiers d'art. Il me semble l'un des seuls ateliers qui existent en France, il me semble, exactement. D'atelier plumerie.
Il y a Maison Verret aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Je les adore.
voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais partir en thèse. Parce que ça m'intéressait vachement l'orientalisme, la mode, tout ça. Je sais pas s'il faut que je définisse ce que c'est que l'orientalisme.
Oui, totalement. J'allais y venir.
Bon, alors après, je vous en parle après. Et en fait, ensuite, j'ai pas pu aller à la fac. J'ai pas pu continuer directement en doctorat. J'ai fait un master à l'école du Louvre. Et où je me suis intéressé à un couturier en mémoire qui s'appelle Paul Poiret. Le plus grand couturier orientaliste, en gros. Et j'ai tiré ça en thèse. En gros, l'orientalisme, c'est une période... c'est un mouvement artistique, scientifique, qui prend pour objet et sujet de représentation l'Orient. Avec toute la problématique de ce que c'est que l'Orient, en gros. Voilà. Et en fait, dans la mode... On voit qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans la haute couture, vous avez une profusion de références orientales. Et que globalement, cette histoire, elle est principalement faite à la gloire des couturiers français, parisiens. Et que c'est toujours, lorsqu'on parle d'histoire de la mode, on parle toujours de... En gros, il faudrait dire l'histoire de la mode des riches de la haute couture blanche, française, même parisienne. Mmh. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, en fait, l'enjeu de ma thèse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue, en termes de mécanisme, en termes d'histoire, en termes de lien entre l'expansion du colonial, enfin, de l'empire colonial, la création, le développement des musées, la société qui change, etc. Voilà. En gros, globalement, c'est essayer de placer le vêtement au cœur de, d'une histoire culturelle et sociale parisienne, française. Voilà. Et l'orientalisme, il est hyper important là-dedans.
Oui, c'est aussi quelque chose qu'on trouvait, donc tu le disais, c'est un mouvement culturel, français et politique du coup. Mmh. On trouve aussi beaucoup ça dans la peinture, si vous allez au musée d'Orsay par exemple, oui. Vous voyez beaucoup de peintures orientalistes au possible. Mmh. Et en quoi est-ce que ça pose question aujourd'hui de revoir toute cette inspiration qui est presque caricaturelle aussi, de ce que pourrait être un Orient fantasmé, un Orient colonisé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert en fait de fantasmer cet Orient? À quoi ça servait politiquement à l'époque?
Waouh!
C'est trop vaste comme question en fait.
Non, mais ça servait à plein de choses. Ça servait à. On est dans un moment où le 19e siècle, il est avide de progrès techniques, de découvertes, mais aussi en même temps de modernité. Révolution industrielle. Et en même temps, on a cette partie du monde qui n'est pas si loin que nous. Et en plus, qu'on commence à administrer, puisqu'on s'implante dans ces pays et on les colonise. Mmh. Et donc, il y a cette espèce de paradis perdu, du bon bédouin dans le désert, qui vit de façon primitive.
Retour à la nature.
Voilà, on est un petit peu dans un truc comme ça. En même temps, il y a quelque chose, c'est Édouard Saïd qui le dit, c'est le théoricien, en fait, de l'orientalisme. C'est un grand penseur américain. Il est... palestinien et américain, et il définit en fait l'orientalisme comme un système de domination mis en place par l'Occident pour contrôler précisément l'Orient, en gros. Enfin, et que c'est un discours de domination qui va s'exercer sur les populations orientales, etc. Donc pour lui, en fait, le fait de représenter l'Orient, le fait de l'étudier, etc., c'est un moyen de le dominer, de le circonscrire.
De maîtriser son image.
Exactement.
Les représentations qu'on s'en fait aussi.
Exactement.
Et ça passe aussi par la mode, par le vêtement.
Exactement.
Pourquoi est-ce qu'on a... je sais pas comment dire, mais... On cherchait pas du tout de l'exactitude aussi dans la manière de refaire des vêtements orientalisés, orientalistés quelque part. Je sais même pas si je peux me permettre le néologisme, mais quand Paul Poiret s'inspire de l'Orient pour faire des vêtements, il cherche pas du tout de l'exactitude. C'est un fantasme en fait.
Oui et non.
D'accord.
C'est assez intéressant parce que du coup, énormément de personnes considèrent que Paul Poiret, c'est l'orientaliste par excellence, en gros. On va dire très clairement, la mille et deuxième nuit, c'est une grande fête déguisée qu'il va donner dans son hôtel particulier en 1911, où en fait il imagine ce que serait la suite des mille et une nuits, en gros quoi. Et oui, là, très clairement, on est dans le fantasme, etc. Mais lorsque vous regardez ses fringues et tout, c'était un type qui allait énormément au musée, qui était en présence énormément d'échantillons de tissus, de vêtements parfois entiers orientaux, et en fait qui est presque un ethnographe, quelqu'un qui va s'intéresser aux cultures, vestimentairement parlant, artistiquement parlant, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il cache complètement tout son processus créatif qui est presque scientifique pour l'enrober dans un truc de communication. Scheherazade, nanana. Mais en fait, il y a certains vêtements qui sont hyper précis. C'est assez intéressant de voir du coup en fait le côté... Il fantasme très clairement, mais en même temps il y a du scientifique derrière.
D'accord, quand tu parles d'ethnographe du vêtement, ça me rappelle aussi... la démarche, en tout cas la démarche revendiquée Yves Saint Laurent, mais est-ce que c'était tout aussi précis ou est-ce que...
Saint Laurent a eu pas mal de problèmes en plus là-dessus.
Moi, Saint Laurent, bon.
T'en reviens
Mais en fait, j'en suis revenu. Moi, ça a été mon plus grand, enfin, le couturier que j'admirais le plus.
T'étais son premier fan.
Ah, vraiment, non, mais vraiment, j'adorais Saint Laurent. C'est par lui que j'ai commencé à m'intéresser à la mode, etc. Et en fait, rétrospectivement, quand même, il est hyper problématique en termes de représentation. Et en même temps, en fait, c'est une autre période. Et c'est une période dans laquelle on parlait pas encore d'appropriation culturelle. Et ça serait complètement anachronique de parler d'appropriation culturelle.
Ouais. Après, et en fait, il y a aussi... bon, ça n'a peut-être rien à voir avec ses collections et tout, mais le problème qu'il a fait au Maroc avec les petits Marocains, etc., ça aussi, ça... En fait, ça on s'est dit, mais le mec, il a quoi dans il avait quoi dans sa tête? Enfin, il y a ce truc de domination, comme tu parles. Et c'est pour ça que là, on a commencé vraiment à dire, non, cette personne était vraiment problématique, en fait. Et ce qui est normal, hein, parce que c'est impardonnable ce qu'il a fait. Mais oui, enfin, Yves Saint Laurent a été énormément critiqué là-dessus. Et moi, après, je peux comprendre.
Bon, Saint Laurent, en fait, c'était aussi un monsieur qui est né en pleine Algérie française, qui était pro-Algérie française, donc du coup qui était assez conservateur dans ses positions et qui a jamais supporté en fait que l'Algérie ne soit plus française. Et d'ailleurs, Pierre Berger, son compagnon, l'a dit à plusieurs reprises qu'il fallait surtout pas parler de ce sujet-là avec lui. Moi, je trouve qu'il se positionne dans la figure du colon, quoi, qui revient, qui est dans son riad, qui est entouré de des mille et une nuits à deux heures en avion de chez lui et qui vit son espèce de fantaisie orientale. Parce qu'en plus, dans les années 70, il y a un néo-orientalisme qui reprend le dessus avec les hippies et tout ça. Enfin, bon, bref, une espèce de rejet de la société de consommation et une remise au goût du jour. Ouais, des traditions orientales, ancestrales. Enfin, bon, bref. Et en fait, je trouve qu'en termes de représentation, il pose question, Saint Laurent. Lorsqu'il fait une collection Bambara, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez celle-là.
Ça me dit quelque chose, c'était à l'époque de Katusha, tout ça.
C'est encore avant. C'est au encore tout début de sa collection, je crois que c'est 1967. Et en fait, il est très intéressé par l'art Bambara, donc d'Afrique de l'Ouest. Et il va décider, du coup, de représenter, voilà, 1967. Il décide de s'intéresser à cet art et donc il va en faire toute une collection. Ce qui est intéressant, c'est que dans le shooting, là, ce que vous voyez, c'est des mannequins blanches qui défilent. Ouais. Et on est vraiment, en fait, sur tout, mais genre, mais les clichés, il y a du raffia, il y a des perles, il y a du bois, et en fait, je me dis, c'est. Ok, il pensait pas à mal faire, et je pense que il faut pas être anachronique dans cette manière, enfin dans cette façon de voir les choses. Mais il y a quand même une objectification qui est assez genre problématique. Enfin, je trouve.
Là particulièrement.
Oui.
Ça pose question.
Et en fait, Saint Laurent, il a toujours été le plus grand couturier dans l'histoire de la mode française, le plus grand, et il n'a jamais été remis véritablement en question.
Ouais, il a toujours été sollicité par tout ce qu'il faisait. Donc, ce qui fait que oui, la remise en question pour cette personne, voilà. Et même s'il y avait quelques personnes qui disaient qu'il était problématique, pour lui, c'est juste des personnes qui parlent comme ça par jalousie ou par autre. Donc,
vous voyez, par exemple, aussi, il y a un truc, c'est qu'il est... Il a participé à la mise en valeur des mannequins noirs sur les podiums. Et en même temps, il y a un truc, moi, que je... Enfin, Katusha, évidemment, et puis il y a Amalia, Vaireli, il y a Monia, et il y en a plein d'autres, et il y a aussi Iman, Bowie. Enfin, bon, bref, il les a fait toutes défiler, il les adorait, etc. En attendant, il leur donnait un surnom, moi, que je trouve hyper problématique et hyper exotisant. Il les appelait ces sirènes d'ébène.
Oh non.
Et en fait, si tu veux, il y a un. En fait, je pense que dans sa, enfin, il était extrêmement sincère dans son appréciation. sans qu'on se rende compte de tous les biais racistes qu'il y a derrière. Parce que pourquoi, en fait, forcément essentialiser une femme noire à sa couleur de peau ? Est-ce que... Et en plus, d'un point de façon vachement
Il y a cette
poétique,
forme de domination.
Oui, bien sûr.
De donner ce surnom parce que tu es comme ça. Et que bah, moi, j'ai rien parce que je suis comme ça. Enfin,
il n'appelait pas ses mannequins blanches, ses sirènes d'ivoire,
exactement.
Par exemple.
Voilà. Exactement. Ouais,
il avait clairement des restes.
En fait, il y a des biais qui me font penser qu'il faut relire sa création à l'aune d'une décolonisation, des imaginaires. Un truc qui soit moins dans la déférence de ce grand génie qui a été Yves Saint-Laurent, et un petit peu plus dans la critique, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, en gros.
Effectivement.
Il a 40 ans d'une création absolument extraordinaire. Le gars a fait 82 collections haute couture, je crois, un truc comme ça. Presque autant de collections prêtes à porter de son vivant. Enfin, c'est énorme. Bon, il a été beaucoup aidé, mais enfin, c'est énorme quand même. Il a impacté son époque de façon extrêmement importante. Mais en fait, moi, ce que j'essaie juste de dire, c'est essayons de le rendre moins génie et un petit peu plus homme, et pointons les côtés négatifs. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, le problème de cela, c'est qu'il est tellement mis en avant, il est tellement sollicité par ce qu'il a fait, que en fait, ça influence d'autres personnes qui admirent Yves Saint-Laurent. Alors que cette personne a eu des comportements problématiques, tenait des propos problématiques également, et au niveau de sa créativité, on commence à se poser des questions, à se dire, mais qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête ? Alors, on ne peut pas dire ce qu'une personne a dans sa tête, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, mais on a quand même des idées, et je ne pense pas qu'elles soient trompeuses, ces idées-là, sachant que beaucoup de gens ont pointé du doigt là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne voient pas cela. Très souvent, ces personnes-là ne sont pas touchées par ce qu'il a fait, parce que voilà, ce ne sont pas des personnes racisées, ce ne sont pas des personnes issues de minorités, ce n'est pas leur culture, donc ils ne voient pas où est le problème. Donc il y a aussi cette ignorance là, mais il y a des personnes que même si ils ne sont pas visés, ils ne sont pas touchés, qui essayent de comprendre sans forcément se mettre, être comme les autres, mais en comprenant qu'effectivement il y a un problème et en se mettant un peu à la place des gens indirectement, tout en disant effectivement c'était problématique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Yves Saint-Laurent, on en parle toujours aujourd'hui dans les cours de mode, etc., comme une légende, comme quelqu'un d'extraordinaire, et son influence dans la mode, elle est toujours là actuellement, alors que c'était une personne qui avait beaucoup de choses problématiques quand même.
Après, l'idée, c'est pas de le call out.
Oui.
L'idée, c'est d'être...
Boycott.
Ou de le cancel ou quoi que ce soit. En fait, c'est simplement de le restituer dans son humanité et dans toute sa complexité.
Bien sûr.
C'est ça.
Et justement, en revenir à ton parcours, donc je disais, Yves Saint-Laurent est mort, il est mort en 2008, et il avait raccroché les ciseaux en 2002, il avait cessé de faire la haute couture dans sa propre maison, et voilà, mais toi, est-ce que c'est des discours, Kemaïs, que tu peux tenir, est-ce que c'est des enseignements aussi que tu peux donner à tes étudiants en mode, ou est-ce que c'est trop tôt ? Comment est-ce que c'est accueilli dans les écoles de vouloir décoloniser la mode ?
De plus en plus, et je suis très 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 content, c'est vraiment cool.
C'est bien.
Parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est des sujets qui sont tellement perturbants, tu l'as très très bien exprimé, que ça te pose question, etc., que en fait, j'ai l'impression que les étudiants, ils ont envie de sortir de la mêlée, de se poser autour d'une table et de dire « Ok, très bien, on va parler calmement de ce sujet. » Les réseaux sociaux, c'est impossible d'en parler calmement.
Ouais.
Et en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est que, oui, comme tu disais aussi, c'est des gens qui comprennent rien du tout, mais qui ont forcément un avis à donner et qui le donnent. Et en fait, qui passent complètement à côté du point. En gros, pour moi, l'appropriation culturelle, si on peut en reparler, c'est... si vous voulez, on est sur un système de mode occidental qui est... complètement hégémonique, qui fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Fashion Week, on les appelle les Big Four, ça veut dire les quatre grosses, en gros, Londres, New York, Milan, Paris. Dans le monde entier, vous avez une cinquantaine de Fashion Week. ouais. personne n'en parle, et ouais. qui sont tout aussi intéressantes.
Exactement.
La Fashion Week, c'est ce que je dis à mes étudiants, la Fashion Week de Shanghai, elle est hyper pointue sur le e-commerce. La Fashion Week de Dakar, c'est l'une des plus grosses. Il y en a une aussi à Lagos qui est hyper grosse sur le continent africain et qui est une sorte de hub de toute la nouvelle génération africaine. Mmh. On commence sur Vogue Runway à voir de plus en plus celle de Copenhague, qui est genre à la pointe du sustainable. Et enfin voilà, vous voyez, en fait, on est vraiment centré sur un espèce de d'hypercentre autour de quatre capitales et ces couturiers qui se sont en fait octroyé le monopole de l'histoire de la mode. Et on s'est rendu compte depuis pas très longtemps que bah, l'histoire de la mode, c'est pas l'histoire de la haute couture. Enfin, c'est pas seulement l'histoire de la haute couture. Mmh. C'est aussi l'histoire bah, des cultures populaires. L'histoire
Exactement.
On s'est beaucoup posé aussi la question de est-ce que la mode est un concept occidental ? Est-ce que on a une idée, cette idée de mode ailleurs qu'en Europe ? Ailleurs qu'en Occident. C'est des questions qu'on se pose de plus en plus. Et il y a certaines chercheuses qui décèlent des choses en Chine, par exemple, où tout le principe de la loi somptuaire... En gros, les lois somptuaires, c'est les lois qui régissent les consommations de luxe. Bah, on se rend compte que... est-ce que ça, c'est un système normatif de consommation de luxe qui peut faire penser à un certain système de mode avec des tendances qui évoluent parce que démocratisation, enfin bon, bref. Je sais pas où est-ce que je voulais en venir, mais je voulais... Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on commence à en avoir de plus en plus marre d'avoir une histoire qui serait complètement ressucée, resservie, froid dans les assiettes des étudiants. Et comme ils voient bien qu'il est clairement en train de se passer quelque chose... et qu'il y a des voix un peu dissidentes qui s'élèvent un peu sur les réseaux sociaux, ils sont en demande d'une histoire qui serait moins blanche, moins occidentalo-centrée, un petit peu plus décoloniale, et c'est cool.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ouais. Après je vous présente le truc du côté cool, hein. Mais il y en a aussi,
il y a aussi
des gens,
des résistances.
Bien sûr, évidemment.
On a les personnes qui... j'ai déjà eu des débats là-dessus. Hein. Il y a des personnes qui complètement disent que l'appropriation culturelle n'existe pas. Que c'est quelque chose qui est inventé, que ça n'a jamais existé, que c'est plus pour se victimiser, etc. Enfin, c'est encore aujourd'hui, voilà, l'appropriation culturelle, c'est toujours un débat. On a toujours des personnes qui ont du mal à comprendre, d'autres qui arrivent à comprendre, d'autres qui rejettent cette idéologie. Même des personnes qui sont racisées, c'est de minorités, rejettent également cette idéologie. Mais moi, je pense que la base. Des bases là-dessus, c'est vraiment une question d'éducation, surtout. Parce que le problème, beaucoup de gens parlent sur ce sujet-là alors qu'ils n'ont aucune connaissance là-dessus, ne savent même pas pourquoi ce mot existe, mais sont contre ce mot. Enfin, voilà. Enfin, vraiment, pour moi, la base, c'est l'éducation là-dessus. C'est on éduque les gens, enfin, voilà, par rapport à ce sujet-là. Donc, voilà.
En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions et des remarques. Maxou, le terrible, tu disais... est-ce qu'il y a des contradicteurs dans le débat ? Bah, en fait, oui et non, parce que je pense qu'on est un peu tous d'accord, mais...
Oui.
Mais en tout cas, il y a plein de nuances à apporter, effectivement.
C'est ça.
En fait, si vous voulez, il y a un truc, c'est qu'il y a toute une école de pensée qui est principalement occidentale, d'ailleurs, et basée sur le concept d'universalisme, hein, une pensée qui, du coup, voudrait que... Enfin, une idéologie, un concept qui voudrait que tous les hommes naissent égaux en droit... Et que du coup, ça
on
donne
pas les couleurs.
Voilà, ça donne des dérives comme le colorblind, etc., etc. Mm-hmm. Et qui disent en fait, mais à raison. En fait, je pense qu'ils ont raison de se poser la question. C'est une question qui comment dire. En gros, l'idée c'est à qui appartient la culture.
Mm.
La culture en soi, qui est une somme de coutumes, de choses qui se traduisent, en fait, c'est une banque de données d'un groupe social à un instant T, à un endroit etc. Et en fait, il part du principe qu'une culture, ça s'hybride, forcément, nécessairement, tout le temps. Tout le temps. Et que d'ailleurs, une culture qui ne s'hybride pas, c'est une culture qui meurt.
Qui meurt, en gros. Ouais.
Et que du coup, à qui appartient la culture ? En fait, c'est vraiment une vraie question, ça. Le seul problème, c'est que donc, ces gens-là partent du principe que l'appropriation culturelle n'a pas lieu d'être. Enfin, du moins, le débat d'appropriation culturelle n'a pas lieu d'être, puisqu'en fait, eh ben, c'est un sujet, enfin, c'est un mécanisme d'interculturalité ancestrale. En gros, ça veut dire que forcément, toutes les cultures s'approprient les unes les autres, pour du coup et pour survivre. Et en fait, et ben c'est ok et c'est tout aussi légitime d'approprier. Enfin, le résultat de l'appropriation est tout aussi légitime que le résultat de base, etc., etc. Bref. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que avec les études postcoloniales, avec le black feminism, avec l'émergence de voix qui vont vraiment penser à remettre en question un petit peu les questions de colonialisme, l'empire colonial, d'un point de vue un peu rétrospectif, on va voir émerger des voix, et je cite toujours cette meuf qui est incroyable, qui est Bell Hooks, qui va écrire un bouquin qui va s'appeler Black Looks en 1992 et qui va un peu théoriser la question d'appropriation culturelle. Et elle fait un lien hyper intéressant. Elle dit l'appropriation culturelle, c'est du cannibalisme culturel. Ça veut dire, elle dit qu'on mange l'autre, l'autre avec un A majuscule. L'idée, en fait, l'autre, c'est tout ce qui représente d'exotique, tout ce qui représente de d'épices, de trucs chouettes, mais en même temps, on est absolument sûr qu'on ne vivra jamais l'expérience de la personne racisée dans l'espace public. On ne bénéficie que de désavantages. Et elle nous parle du supermarché, de la consommation exotique. Et en gros, en fait, c'est des mécanismes comme ça, quoi. Genre, on rentre dans le supermarché, faut s'imaginer qu'on est Dior ou qu'on est Chanel. Alors, pour cette collection, on va prendre le rayon Asie, on va prendre ci, on va prendre ça. Et en fait, en faisant ça, on continue on perpétue des représentations raciales, racistes, racialistes qui se sont instituées pendant des périodes de colonisation, d'esclavage ancestral. Et en fait, les personnes qui se sentent offusquées de ça, elles leur demandent une seule chose, c'est pas d'arrêter, c'est simplement de se représenter elles-mêmes et d'être impliquées dans le processus créatif. En gros, de dire, mais attendez, vous êtes en train de parler de moi, mais faites-moi parler. Je sais mieux parler que vous de ce sujet. Wow. Pourquoi est-ce que vous m'invisibilisez? Et donc, en fait, l'appropriation culturelle, pour moi, c'est ça. C'est symptomatique d'un moment où les cultures minorisées veulent prendre la parole.
Exactement.
Et veulent essayer de challenger les représentations dans une culture globalisée, en gros.
Qu'est-ce que ça t'inspire?
C'est hyper intéressant.
Ouais.
Il y a aussi un enjeu de, financier qui revient, c'est que
bien sûr.
C'est pour ça que peut-être que le terme d'appropriation culturelle est imprécis et qu'on devrait parler d'expropriation ou de spoliation culturelle, je sais pas, mais c'est oui, l'enjeu du crédit et à qui profite le crime, c'est aussi pour ça que c'est important justement de valoriser d'où viennent les savoir-faire et de permettre aux artisans originel, par exemple, de le faire eux-mêmes, en fait, le savoir-faire qui serait impliqué dans une collection qui reprendrait du Kente ou j'en sais rien.
Et tu vois, je trouve qu'il y a une limite aussi à ça, parce que par exemple, l'exemple de la collection croisière Dior à Marrakech, on en parle beaucoup de celle-là, elle a fait beaucoup parler. Je ne me rappelle plus c'était quelle année, c'était 2020 ? Non, 2019, je crois. Ça.
On va
2020, croisière 2020, c'est ça. Et en fait, donc l'idée, c'est une collection croisière basée donc, enfin, présenté à Marrakech et donc qui vient célébrer
avec Yoax.
Voilà, vient célébrer les cultures africaines, etc. Et donc on est dans une espèce d'hybridation entre des tissus africains, des cultures africaines et l'ADN Dior. Dans le cadre d'une collection hyper capitaliste, puisque c'est une collection croisière.
Ouais.
La collection croisière, petit point vocabulaire, du coup, c'est celle qui est la plus longtemps vendue dans les boutiques, qui est ni le printemps-été ni l'automne-hiver, mais la croisière qui est entre les deux, historiquement, pour les clients richissimes qui partaient en croisière et qui avaient besoin de vêtements en dehors des saisons d'où elles venaient.
Exactement. Et donc, en fait, ils sont hyper bons dans toute leur campagne de pub, dans toute leur communication sur les réseaux, etc.
Ils créditent les artisans.
Exactement, ils n'ont eu de cesse de créditer les artisans et de dire et de les mettre en valeur et de montrer à quel point ils sont présents dans le processus créatif, etc. Mais en attendant, c'est un one shot. On n'a plus jamais revu de wax dans les collections Dior. C'était simplement...
Et tant mieux.
C'était simple, oui. Mais en fait, c'est juste pour
tout
montrer
que... Tout ce qui est question
que...
financière, en fait. C'est...
En fait, finalement, c'est est-ce que ça sert... Est-ce que c'est vraiment... Enfin, créditer, c'est chouette. J'ai même envie de dire, c'est la base.
Oui.
Ce serait même... En fait, on ne devrait même pas se réjouir qu'ils les créditent.
Mmh. Mmh.
Moi, ce qui m'énerve, c'est plus l'impression de...
On est venu, on a mangé, on est reparti.
Exactement.
Ouais, c'est ça. On
est
parti. Se sert en mode, voilà. C'est ça y est. On
mais
part.
En même temps, on va
c'était
faire.
C'était une collab.
On fait du washing parce que on a préféré le wax africain plutôt que le de néerlandais Wilsko. Et donc du coup, c'est cool parce que bon voilà, enfin, on a fait notre BA, on les a bien aidés, ces petits noirs, c'était chouette. Ils ont profité de la force de frappe médiatique de Dior, mais en fait in fine c'est fini, enfin, après c'est fini. On les entend plus parler,
on n'entend plus parler de ces artisans, enfin plus rien.
C'est ce que je dis à mes étudiants aussi pour le par exemple il y a une collection que j'ai trouvé hyper problématique, croisière de Chanel, uh-huh, qui a eu lieu à Cuba, Coco Cuba.
Ah oui.
Coco Cuba, donc sur l'Amérique latine, sur Cuba, enfin c'est vraiment une esthétisation du latino et de la latina, mais un petit peu chic, tu vois, qui porte des Panama et voilà.
Ouais.
Pour ce faire, ils ont pendant 15 minutes privatisé l'un des axes les plus importants de Cuba. Et en fait. Et donc, du coup, ils sont arrivés avec leur Boeing, leur charter. Tout le monde de la mode s'est déplacé à Cuba pour un quart d'heure, pour un quart d'heure de show. Ils ont fait une after party et ils sont rentrés. Et en fait, la question que je leur pose, c'est est-ce que un créateur cubain aurait pu faire la même chose sur les Champs-Élysées? Et clairement, non. Il n'aurait pas pu faire la même chose.
Ouais.
Il y a cette idée, en fait, d'unilatéralité qui est assez insupportable, puisqu'en fait, eh ben, clairement, à qui profite le crime? Bah, in fine, c'est aux groupes de luxe énormes qui profitent de leur puissance financière pour représenter ce qu'ils veulent.
De l'ailleurs aussi, d'eux-mêmes et de l'ailleurs.
Ouais.
Effectivement, donc c'était la collection Chanel Reserve 2017. C'est aussi une espèce de consanguinité énorme du luxe, en fait, qui est très français. D'ailleurs, les principaux groupes de luxe les plus puissants à travers le monde sont tous les deux français, c'est LVMH et Kering. Et en fait, ça a aussi un lien avec la presse, parce que c'est des annonceurs hyper importants dans les magazines de mode. Du coup, les magazines de mode ne peuvent pas avoir ce genre de point de vue critique sur ces collections et ces événements. Et encore, ça commence à poindre. Je sais pas si vous avez vu passer le défilé. D'ailleurs, on aurait pu en parler ici, maintenant que j'y pense. Le défilé Saint-Laurent, tout récent.
Ah, j'ai pas vu
l'homme.
Hommes, effectivement, où en fait ils ont mobilisé.
Ouais,
ça a fait une grosse polémique, justement, parce qu'ils ont, tout comme Chanel à l'époque, c'était pré-Covid, Chanel à la rigueur, je pense que les gens s'en rendaient un peu moins compte, mais ça devait déjà poser question, en fait. C'est aussi pour ça que les collections croisières, c'est important, c'est une démonstration de force, de puissance de financière et politique et sociale, puisque pouvoir mobiliser tout plein d'acteurs, de clientes richissimes, et aussi de la presse, et aussi des influenceurs, pour un défilé qui dure 15 minutes, c'est dire qu'on a de la thune, et dire qu'on est influent, et dire que tout va bien dans la maison.
On fait
quoi.
Tout ce qu'on veut, voilà. Où on veut.
C'est aussi, et maintenant, ça pose question pour des questions écologiques, mais ouais. aussi sanitaires, parce qu'on est encore en pandémie. Hein, et là, je viens de vous mettre dans le chat le lien vers le défilé Saint-Laurent qui a défilé dans un désert au Maroc. Et justement, maintenant qu'on est beaucoup plus conscient de ces enjeux écologiques, bah, d'un coup, ça paraît insupportable de se dire, mon Dieu, mais en fait, ils ont mobilisé des centaines de personnes pour un défilé qui a duré 15 minutes. Mmh. Ça, en pleine, justement, en plein problème, de sécheresse aussi au Maroc. Ils ont bloqué plein d'installations d'eau, mobilisé plein de canalisations d'eau, privant d'autres villages alentours d'eau. Donc, c'était hyper galère. Enfin, voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que du coup, c'est en train de bouger petit à petit, mais c'est toujours très unilatéral le rapport de force entre les pays du Nord global et les pays du Sud, puisque c'est le Nord encore qui dicte la mode et la culture finalement. Même ça se retrouve aussi dans ce qu'on dit, quand on parle pardon de culture pop versus quoi, versus la culture élitiste aussi. Donc c'est extrêmement complexe comme question. Mais là où je voulais, l'autre question que je voulais te poser, Kemaï, c'est à l'issue de ta thèse, tu dois faire quoi comme travail ? Est-ce que tu veux continuer dans l'enseignement ?
Ouais. Ouais, j'aimerais bien continuer dans l'enseignement. J'aimerais bien faire de cette thèse une exposition et un bouquin, parce que il y aurait de quoi faire. Et je pense que ça serait intéressant aussi de remettre un petit peu. Enfin. Il y a énormément de choses qui ont été faites sur l'orientalisme et la mode, et évidemment, je suis pas le premier à m'être intéressé à ces sujets-là. J'ai l'impression d'essayer de faire vraiment le nerd historien qui fouille dans les archives et qui propose quelque chose, clairement de nouveau. Et je me dis que de voir ça visuellement dans une exposition, ça pourrait être chouette. Et ouais, continuer la recherche, donc faire. Comme j'aurais pas assez d'une thèse, faire ce qu'on appelle un post-doc, donc un post-doctorat, c'est l'équivalent de refaire une thèse et faire continuer l'enseignement et bosser pour les musées, ça pourrait être chouette.
Je pense que ce serait intéressant pour des maisons de luxe, du coup, d'avoir un consultant comme toi aussi.
Ouais.
Voilà,
C'est pas moi qui l'ai dit.
Je remets son Instagram dans le chat, au cas où vous voulez le contacter. S'il y a Saint Laurent au hasard dans le chat. Mais je crois que t'as déjà bossé là-bas, non?
Ouais, j'ai bossé.
Pardon, fin de la parenthèse. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Fatou ou pour Kemaïs? On est là. On va y répondre en direct. Est-ce que d'ailleurs, toi, t'as une question pour Kemaïs ou Sarah? Est-ce que t'as une question? Mais d'accord.
J'espère que je vous ai pas assommé.
Non, franchement, comme travail.
Une masterclass gratuite comme ça.
Non, j'ai juste une remarque, c'est que c'est vraiment passionnant et que, enfin, je trouve que c'est bien joué de nous avoir réunis tous les deux. Ça fait sens. J'ai appris plein de choses et
c'est ça. En plus, c'est surtout des sujets qui sont importants où on a eu d'autres invités auparavant et c'est vrai qu'il était important dans l'émission d'avoir d'autres points de vue au niveau des invités et en plus on parle d'un sujet qui est quand même assez important, qui nous touche tous et qui touche tout le monde en fait clairement et moi je trouvais que c'est important qu'on puisse aussi instruire les gens en parlant de notre expérience et de notre ressenti. Donc, moi, je suis contente.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou une leçon tirée de ta thèse, qui n'est pas encore terminée, du coup, tu soutiens l'année prochaine qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans des fashion studies aujourd'hui en France ?
Qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il faut faire et qu'il faut occuper l'espace universitaire, que que la mode, elle a été jugée beaucoup trop longtemps futile, pas digne d'intérêt académique et que ça commence à changer et qu'il y a clairement une brèche et qu'il faut s'engouffrer. Je lui dirais aussi de surtout ne pas s'engouffrer dans cette brèche sans un quelconque financement. Parce que c'est un calvaire d'écrire une thèse sans financement.
Décidément, vous avez compris.
C'est-à-dire qu'en fait,
on a la thune dans la mode.
Non, mais on y va la fleur au fusil et en fait, on se rend compte que un travail de thèse, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup, beaucoup de... Là, je suis en PF, enfin, je suis en burn-out d'écriture. Enfin, c'est compliqué de sortir 500 pages d'un coup, quoi. Mais je le fais. Et en fait, eh ben, il faut taffer à côté et tout ça. Et c'est quand même vachement plus confortable lorsqu'il y a des sous. Ouais. Donc, ne vous lancez pas sans avoir de contrat doctoral, de contrat CIFRE, ils appellent ça CIFRE, c'est-à-dire avec une entreprise. Faites ça. Ça se développe de plus en plus, mais ouais. Et il faut avoir un Master 2.
Et ça peut être un contrat avec un musée, une maison de luxe.
Par exemple.
Ou une fondation, ce genre de choses, quoi.
Par exemple.
Histoire de faire une pierre de coup, que ce soit en lien avec votre sujet de thèse. Mmh. D'ailleurs, toi, est-ce que t'aurais, Fatou, un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans la mode en tant que côté création?
La thunasse.
Bah, c'est un petit peu le même conseil, hein, je dirais de s'entourer, d'essayer de... Je sais qu'au début, c'est difficile de se faire une équipe tout de suite parce que, enfin, quand c'est quelque chose qui vient de ta tête à toi, comment tu vas t'entourer d'inconnus qui vont... Moi, personnellement, ça s'est fait avec le temps. On a d'abord vu mon travail, on s'est intéressé, et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à avoir des gens autour de moi. Enfin, ça s'est fait de manière hyper organique. Donc, je dirais de s'entourer, si possible, d'avoir un financement ou de l'argent de côté. Après, bon, je suis pas forcément pour les prêts, tout ça. Mmh. C'est pas trop ma philosophie, on va dire, mais c'est quand même plus confortable. Et voilà, après, c'est... De rester authentique, quoi.
Ok. L'authenticité, ça va être le mot de la fin, je pense. Et la thune.
Et la thune.
Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Aussi aux personnes dans le chat, merci beaucoup d'avoir été là. Du coup, je vais redire les prénoms de chacun et chacune. Donc, merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là.
Merci à toi.
Merci beaucoup à toi, Fatou. Ton Instagram est dans le chat aussi. Merci beaucoup, Kémaïs. Ton Instagram est dans le chat également. Et du coup, je voudrais juste vous dire au revoir. À bientôt. On se revoit le mois prochain avec d'autres invités. C'était le JT Mode. J'espère que ça vous a plu. Ce sera disponible en replay sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, mais aussi sur YouTube et peut-être aussi en podcast si vous êtes sage. Donc voilà, restez connectés. On se revoit vite. Prenez soin de vous. Bisous. Au revoir.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.